VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Soudan du Sud, le procès de 13 soldats sud-soudanais accusés d'avoir violé des travailleuses humanitaires et tué un journaliste local en juillet 2016 à Djouba s'est ouvert ce mardi devant un tribunal militaire dans la capitale de ce pays en guerre depuis 2013. Le colonel Aboubakar Mohamed, procureur militaire, a souligné sa détermination de mettre fin aux exactions au sein de l'armée. Michel Joseph.
L'attaque la plus grave contre les agents humanitaires au Soudan du Sud avait eu lieu en juillet 2016 dans un hôtel de Djouba, alors que les soldats du président Salva Kiir venaient de chasser les forces loyales à l'ex-vice-président Riek Machar. Cette affaire avait entraîné le limogeage du commandant des casques bleus, ainsi que la démission du chef de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud. Les enquêteurs onusiens ont souvent accusé l'armée sud-soudanaise et les rebelles de recourir au meurtre, viol et à la torture depuis le début, en 2013, de la guerre civile, de même qu'ils n'ont cessé de dénoncer l'impunité au Soudan du Sud. « Nous voulons éliminer ces crimes dans les rangs de l'armée », a assuré le procureur militaire Aboubakar Mohamed, qui a promis de se pencher également sur la responsabilité des officiers commandant les troupes.
En RDC, le directeur de l'Agence nationale des renseignements, Kalev Mutondo, et le ministre porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, figurent parmi les 8 hauts responsables congolais sanctionnés par l'Union européenne. L'organisation pan-européenne basée à Bruxelles les accuse de graves violations des droits de l'homme. Abdourahmane Dia.
Cette liste publiée au journal officiel de l'UE s'ajoute à celle de 7 personnes soumises à des sanctions depuis décembre 2016, en réponse aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l'homme qui y étaient liées. Ces sanctions consistent en un gel des avoirs et une interdiction de voyager dans l'Union. Elles touchent, entre autres, le directeur de l'Agence nationale de renseignement, Kalev Mutondo, impliqué dans l'arrestation arbitraire d'opposants et de militants de la société civile, selon les termes même du communiqué. Parmi les responsables sanctionnés figurent également le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Lambert Mende, accusé d'être responsable de la politique répressive menée envers les médias. Le ministre de l'Intérieur, Ramazani Shadari, est aussi concerné. Le chef de milice Kiyungu Mutanda, lui, est sanctionné pour avoir contribué à de graves violations des droits de l'homme et à des crimes de guerre tels que des exécutions de civils au Katanga. Ces nouvelles sanctions pourraient dégrader davantage les relations déjà tendues entre Bruxelles et Kinshasa.
En Côte d'Ivoire, l'audition de Souleymane Kamagaté, chef du protocole du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, continuera demain à Abidjan. Monsieur Kamagaté a de nouveau été entendu lundi par des enquêteurs sur la découverte le 15 mai d'une cache d'armes à Bouaké, épicentre des récentes mutineries de soldats. Jean-Roger Bion.
L'audition de Souleymane Kamagaté, dit Salte Soul, par le procureur a duré plus de 6 heures. Mais rien n'a filtré de l'interrogatoire. Ce proche du président de l'Assemblée nationale a été laissé libre et convoqué à nouveau pour mercredi. L'enquête contre Souleymane Kamagaté a été ouverte vendredi dernier après la découverte d'une importante cache d'armes dans un logement donné pour être sa propriété à Bouaké pendant les mutineries qui ont secoué le pays en mai. Les questions lui ont été posées sur cette affaire de cache d'armes et il a répondu qu'il n'était ni l'acquéreur ni le propriétaire de ces armes, avait expliqué la semaine dernière à la presse Moussa Touré, directeur de la communication à l'Assemblée nationale. Les médias présents à Bouaké ont rapporté avoir vu des caisses d'armes retrouvées sur ces lieux. Des mutins avaient quant à eux exhibé de nombreuses armes provenant de cette cache d'après l'AFP. Le ministre ivoirien de la Défense, Alain Richard Donvahi, avait annoncé l'ouverture d'une enquête afin de situer les responsabilités.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Guinée, la grève dans les banques ne facilite pas un bon début de Ramadan. Les employés des banques réclament de meilleurs traitements et pour se faire entendre, ils refusent de se rendre au travail. La grève a des effets désastreux sur le panier de la ménagère.
Pendant ce mois de Ramadan, c'est difficile vraiment. Et le marché aussi, tout est cher maintenant. Les prix ont été augmentés. Le kilo de viande qui se vendait à 35 000 se vend à 40 000 actuellement. Et même le gombo qui est à 500, on le vend aujourd'hui à 2 000 francs. C'est vraiment difficile pour nous. On n'arrive pas à joindre les deux bouts.
Une Guinéenne dans un marché de Conakry, propos recueillis par notre correspondant sur place, Zakaria Camara. Et puis au Niger, le procès au fond dans l'affaire du président de la coalition des partis de l'opposition, Amadou Djibo Ali Dimax, s'est tenu lundi au tribunal de Niamey. Le prévenu est poursuivi pour proposition de complot visant à renverser le régime du président Issoufou Mahamadou. Après avoir écouté les deux parties, le juge a mis l'affaire en délibéré au 6 juin. Les détails avec notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
Amadou Djibo Ali Dimax a plaidé non coupable du fait qui lui est reproché. Proposition de complot visant à renverser le régime. Malgré le rejet par le juge des exceptions qu'ils ont soulevées lors de la première audience déjà, les avocats du président de la coalition des partis politiques de l'opposition sont revenus lundi matin encore sur la nullité de la procédure pour demander la relaxe pure et simple de leur client, Maître Marc Le Bihan.
Je suis vraiment triste que pour des arguments aussi légers, aussi illégaux, sans preuve, on amène quelqu'un en flagrant délit et on le détient pendant 15 jours. Il y a vraiment un abus, un détournement de procédure. Moi, je pense que les éléments ne sont pas constitués. Le juge est obligé de relaxer.
Le ministère public a requis 6 mois d'emprisonnement ferme et 200 000 francs CFA d'amende. La décision du juge est très attendue par l'opposition qui parle d'intimidation et de dévouement de la démocratie par le régime en place. Un rappel, c'est suite à une intervention appelant les militants de l'opposition à une mobilisation plus conséquente pour faire face au régime que le président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République a été interpellé le 15 mai dernier à son domicile. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Retour en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien réaffirme la gratuité des soins pour le paludisme simple. Une mesure en vigueur depuis 2012, mais pas toujours appliquée dans plusieurs centres de santé. D'Abidjan, les explications de notre correspondant sur place, Georges Ibrahim Tonkara.
En Côte d'Ivoire, le paludisme reste l'une des principales causes de mortalité. En 2014, ce sont 4077 personnes qui en sont mortes et 3075 en 2016. La tendance est à la baisse selon le PNLP, le Programme National de Lutte contre le Paludisme. Pour le directeur coordonnateur du PNLP, il faut maintenir le cap, d'où la mesure portant gratuité des soins contre cette maladie. Docteur Antoine Tanomea.
Pour permettre à toute la population, toutes les personnes vulnérables, tous ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès facilement au traitement, c'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire a rendu gratuit la prise en charge contre le paludisme. Parce que le paludisme est le premier motif de consultation en Côte d'Ivoire.
Si officiellement le traitement du paludisme simple est gratuit, la réalité est cependant tout autre dans de nombreux centres de santé. Plusieurs malades, comme ici dans la commune d'Abobo, affirment avoir payé les soins liés à cette maladie. Kadiatou Traoré est nourrice.
C'est mon petit bébé, tu es malade là, donc on l'a amené ce matin. En fait, on n'a pas payé le ticket, mais on a donné l'ordonnance, on a acheté les seringues là. Non, on a fait une injection. C'est mon mari même que je cherche. Il a sorti l'ordonnance. Adam est venu voici, il est au dehors ici.
Il a pas encore mis 2 mois.
Il a 1 mois.
Dame Kwadjo Yvette vient de consulter un médecin.
Bon, il m'a dit que c'est le palu. Il m'a prescrit des ordonnances à acheter.
Donc vous n'avez pas donné de médicaments?
Non. Pas de médicaments.
Donc vous allez tout payer, hein?
Bon, je vais voir la maison et aller voir monsieur. Parce que c'est pas venu assez d'argent. Non, jusqu'à 2 ordonnances. Aucun médicament.
Une autre dame rencontrée cette fois à Yopougon, autre quartier d'Abidjan, dit ignorer l'existence de la mesure sur la gratuité des soins du paludisme simple.
Je suis allée plusieurs fois à l'hôpital et j'ai toujours payé les médicaments. Je ne sais pas pourquoi on dit que c'est gratuit. C'est écrit nulle part. Je ne sais pas si c'est écrit là-bas même. Même quand on devait prendre les médicaments à l'hôpital, c'était toujours payant.
Les médecins que nous avons approchés n'ont pas voulu réagir à ce débat, préférant nous renvoyer à leur hiérarchie. Docteur Antoine Tanomea, directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme.
Il y a d'autres personnes qui l'appliquent et on reçoit des sons divers qui disent que soit j'ai payé ou je n'ai pas payé, qu'il y a une confusion. Le médicament du paludisme est gratuit. Ce que nous demandons aujourd'hui aussi à nos collègues, les prescripteurs, les médecins, les infirmiers, c'est qu'ils font maintenant des ordonnances différentes. Qu'ils puissent faire une ordonnance typiquement pour le traitement du paludisme simple et une autre ordonnance aussi pour autres affections qui sont liées au paludisme, pour ne pas qu'il y ait cette confusion.
On le voit donc, la gratuité du traitement du paludisme simple proclamée dans le discours officiel est loin d'être une réalité dans de nombreux centres de santé. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Et pour terminer, au Nigeria, le sud-est du pays commémore aujourd'hui le cinquantenaire de la déclaration de sécession du Biafra qui avait entraîné 3 ans d'une terrible guerre civile et en fait plus d'un million de morts. Les magasins, les écoles et les bureaux sont restés fermés aujourd'hui dans cette région à grande majorité Igbo où les velléités indépendantistes persistent 50 ans après les événements. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.